Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На кра! У!
Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. 78 лет назад, весной 1945 года, под ударами Красной Армии пала столица фашистской Германии, город Берлин. В ходе боев за центр города военнослужащими 150-й Идрицкой стрелковой дивизии Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария на куполе Рейхстага был водружен штурмовой флаг, ставший на все времена знаменем победы над поверженным фашизмом. Сегодня флаг Российской Федерации и Знамя Победы в руках лучших военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, сержантов Антона Михайлова и Дмитрия Монастырева. Возглавляют знаменные группы старшие лейтенанты Геннадий Звонков и Алексей Пасканный.
Bienvenue et bonjour, on suit ce mardi matin du 9 mai le défilé militaire russe qui sera bientôt suivi du discours de Vladimir Poutine qui est forcément très attendu. On vous le fera suivre, en commenté, en traduit bien évidemment. Et je suis avec Fabrice Tonnet-Langlois. Bonjour Fabrice.
Bonjour Vincent.
Ancien correspondant du Figaro à Moscou. On le voit Vladimir Poutine sur cette estrade qui s'apprête à parler dans un contexte toujours attendu, hein, bien sûr, puisque ça fait plus d'un an que la guerre en Ukraine a débuté. Déjà une première question, là-bas, les célébrations de la Seconde Guerre mondiale se passent le 9 mai.
Oui, le 9 mai et pas le 8 mai comme dans le reste de l'Europe. C'est à l'origine une question de décalage horaire. En fait, la capitulation a été signée par les Allemands à Berlin, alors qu'il était 23h16, heure locale, heure de l'Ouest, le 8 mai à Berlin. Il était déjà minuit 16 à Moscou. En fait, c'était une seconde reddition. Il y en avait eu une première signée à Reims le 7 mai. Staline n'était pas content. Il voulait absolument qu'il y ait un acte signé à Berlin. Donc, c'était déjà les prémices des divisions de la guerre froide. Et justement, dans la suite de ces prémices de la guerre froide, Staline a toujours voulu marquer la différence et fêter, dès l'après-guerre, la victoire de la grande guerre patriotique, comme on l'appelle on l'appelait en URSS et comme on a continué à l'appeler dans la Russie de Yeltsin puis de Poutine, de la fêter le 9 mai et non le 8 mai, donc une date très symbolique, on en reparlera tout à l'heure avec le choix de l'Ukraine à ce sujet.
Bien sûr, voilà. Vous n'hésitez pas tout au long de ce live, bien sûr, à poser vos questions. Je salue Christian Léon Toussaint qui est avec nous dans le chat du Figaro. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous n'hésitez pas donc à poser vos questions. On va parler de ce défilé, on va suivre ça. Le 9 mai, ça a une grande importance en Russie, vous qui avez été correspondant là-bas.
C'est quasiment la fête nationale, même si officiellement ce n'est pas la fête nationale, mais pendant toute l'ère soviétique, c'était vraiment une date extrêmement importante, avec donc ce défilé militaire, cette démonstration de force qui a lieu sur la Place Rouge, donc le lieu, l'incarnation du pouvoir soviétique puis russe. Et dans la ferveur populaire aussi, ça a été très longtemps, et ça le reste encore très largement, une fête très importante où on se souvient des sacrifices absolument immenses consentis par les peuples soviétiques et russes durant le Second Conflit mondial, puisque je vous rappelle, alors il y a toujours des polémiques sur les chiffres, mais il y a sans doute plus de 25-26 millions de citoyens de l'Union soviétique qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, donc appelée par Staline la Grande Guerre patriotique, qui permettait un peu d'oublier les débuts de la guerre, hein, puisqu'il y a eu d'abord le pacte germano-soviétique au tout début, avant que Hitler ne se retourne vers l'URSS en 1941, et que Staline lance toutes ses forces dans la bataille et soit un allié absolument déterminant.
C'est un peu leur 14 juillet à eux.
Oui, clairement, c'est le plus grand défilé militaire de l'année, très spectaculaire. Il y a évidemment, alors on parle cette année de quelques 10 000 hommes qui défileraient à Moscou, parce qu'il y a eu quelques défilés en province, même si on est moins nombreux. C'est souvent une démonstration d'engins militaires, de blindés, de missiles même, des missiles pouvant transporter des têtes nucléaires. Évidemment, les têtes nucléaires ne sont pas sur la place rouge, mais les missiles de la force stratégique nucléaire sont en général conviés à ce défilé. Il y a, selon les années, un défilé aérien aussi, très, très important, très spectaculaire. Il avait été annulé l'an dernier officiellement pour cause de mauvaise météo.
Alors que là, il a l'air de faire beau, et vous me disiez que, bizarrement, le 9 mai, il fait toujours très beau à Moscou.
Alors, je ne sais pas si c'est de la légende urbaine, mais c'est quelque chose qui a très longtemps été répété à l'époque soviétique et en tout cas au début de l'ère Poutine. On disait que les Russes utilisaient, ensemençaient des nuages avec des sels d'iodure d'argent, une technique connue depuis des décennies, pour éclaircir le ciel sur un périmètre bien déterminé. A priori, c'est une technique qui a été à plusieurs reprises utilisée. Très souvent, effectivement, les 9 mai bénéficiaient d'un ciel bien bleu au-dessus de la place rouge. Les Chinois, paraît-il, aussi utilisent ce genre de technique pour garantir un beau temps. Ah, on voit le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, qui est dans un command-car, qui vient de saluer. Donc, il est bien présent.
Oui, c'est qui était au début de la guerre, on le voyait énormément, puis après on l'a plus vu pendant un moment.
Il avait été escamoté pour des raisons toujours mystérieuses. Il faut être extrêmement prudent dès lors qu'on essaye de donner des explications pour tout ce qui concerne les décisions du Kremlin, encore plus depuis le début de la guerre. Hein. Il y a beaucoup de fausses informations, d'informations tenues secrètes. Shoigu, on parle souvent de proche de Poutine, pour le coup, lui est un vrai proche, un intime de Poutine. Donc avait, semble-t-il, été écarté, sanctionné, difficile à dire, et puis il était réapparu. Donc, ministre de la Défense, que l'on voit ici à l'image.
Alors, si on le disait, ça ressemble à notre 14 juillet. Un 14 juillet, nous, on invite des chefs d'État de tous les pays. Là, on a vu Loukachenko, le président
des alliés les plus proches, ou même
du Bélarus.
Plus qu'un allié, certains diraient un suppôt un féodé à Vladimir Poutine. Donc Alexandre Loukachenko, le président dictateur de la Biélorussie, qui a été utilisé, notre pays voisin aussi de l'Ukraine, qui a été utilisé par les troupes russes pour pouvoir attaquer dans la première période de l'offensive dans la région de Kiev.
Mais sinon, des chefs d'État, on imagine mal le président américain ou des grands présidents venir sans faire injure au président du...
Alors en 2020, Vladimir Poutine avait eu le souhait, l'ambition pour marquer le 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, de convier tous les grands chefs d'État, c'était prévu, et puis c'est le Covid, le virus, qui a empêché cette grandiose réunion. Et du coup, cette année, évidemment, les pays que Moscou qualifie de non-amicaux ne sont pas conviés. Il y a quelques chefs d'État des pays proches, donc des chefs d'État d'Asie centrale. Vous le disiez tout à l'heure, Alexandre Loukachenko. Voilà, c'est l'essentiel des chefs d'État représentés.
Effectivement. Et on se demande aussi le public. Il y a un peu de public. Vous qui y avez été, comment ça se passe?
Alors traditionnellement, en tout cas à l'époque où j'y étais, qui remonte maintenant il y a une quinzaine d'années, sur la place rouge même, il n'y avait pas de grand public. C'était vraiment des invités triés sur le volet, donc beaucoup de vétérans, hein, tant qu'il y en avait encore, des vétérans de la Grande Guerre patriotique, qui avaient souvent bardé de médailles. Ils sont très, très impressionnants, très émouvants. Et puis le gratin, je dirais, de la société russe, évidemment des élus, quelques hommes d'affaires, des gens du monde du spectacle. Mais le grand public, en général, était relégué dans la rue pour voir une partie du défilé, les véhicules arriver, mais il n'était pas convié pour des raisons de sécurité dans ces tribunes qu'on voit qui font dos aux murailles rouges du Kremlin. Et la presse internationale était traditionnellement conviée. J'ai eu personnellement la chance d'assister à ce défilé très spectaculaire à deux reprises. Cette année, les pays, donc toujours qualifiés de non-amicaux, la France en fait partie, ne sont pas conviés. Donc Alain Barluet, notre correspondant à Moscou, n'est pas cette année sur la place rouge.
Il ne pourra pas suivre ce défilé. Il y a quelque chose dans des filets dont vous parliez avant cela, ça s'appelle le régiment immortel.
Alors c'est une tradition qui a été plus ou moins spontanément générée dans les années 2005-2010. En fait, c'est des gens de la population, le public, qui a commencé à défiler dans les rues avec des portraits de leurs chers disparus. Encore une fois, je rappelle ce chiffre absolument incroyable de plus de 25 millions de morts soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc des familles défilaient avec le portrait à la main de leurs disparus. Vladimir Poutine avait récupéré cette idée populaire. Il a lui-même défilé, sauf erreur de ma part, avec le portrait de son père. Vladimir Poutine a passé son enfance. Il est né après la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50, mais il est né dans un Leningrad encore très, très marqué par le siège terrible. Donc Leningrad devenu Saint-Pétersbourg, marqué par un siège absolument terrible pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc Vladimir Poutine avait récupéré ce qu'on a appelé le défilé des immortels, où on brandit les photos des disparus. Ces défilés n'ont pas été, semble-t-il, autorisés cette année. On peut penser qu'il y a une crainte de la part des autorités que certaines familles brandissent les portraits des disparus dans le conflit en Ukraine. Vous savez que les autorités russes entourent le nombre de victimes militaires d'un très grand secret. Il y a les services secrets occidentaux qui avancent des chiffres, c'est très difficile de savoir, on parle de plusieurs dizaines de milliers de morts peut-être de soldats russes depuis février 2022, mais on n'en sait absolument rien, et en tout cas les autorités russes n'ont absolument aucune envie qu'on voit des portraits des soldats russes disparus en Ukraine dans la rue. Ça pourrait se retourner contre le pouvoir, même si Vladimir Poutine a quand même à cœur de souligner l'héroïsme des soldats envoyés dans cette opération spéciale.
C'est ça, opération spéciale, c'est toujours c'est pas une guerre.
Toute l'ambiguïté
pour la Russie,
du terme.
C'est toujours une opération spéciale, ça n'a pas changé depuis. On parle toujours d'opération spéciale,
oui,
et donc de guerre.
Et donc cette opération spéciale n'est pas censée faire des dizaines de milliers de victimes.
Mmh. Alors, on parlait tout à l'heure de la sécurité sur cette plage rouge. On imagine que ça doit être. Il faut sécuriser, alors que Vladimir Poutine devrait prendre la parole d'ici quelques instants. La place rouge a été fermée pendant 15 jours avant.
Oui, c'est tout à fait inhabituel. Alors, elle est de temps en temps fermée au public pendant quelques jours. Là, on voit le ministre de la Défense saluer Vladimir Poutine qui va parler un discours qui va nous être traduit par notre interprète Olga. Peut-être une minute de silence avant. Et donc, effectivement, vous parliez de la sécurité. C'était même ces dispositifs. Bon, on va écouter Vladimir Poutine.
Chers citoyens de la Russie, chers vétérans, camarades soldats et matelots, sergents et quartiers maîtres, aspirants et adjudants, camarades officiers, généraux et amiraux, chers combattants et commandants, les participants à l'opération spéciale militaire, je vous félicite à l'occasion de cette fête du jour de la victoire. C'est la fête pour commémorer nos pères, nos grands-pères, qui ont glorifié leur nom et sont devenus immortels en défendant leur patrie. Grâce à leur sacrifice, à leur courage, ils ont sauvé la patrie du nazisme. Aujourd'hui, notre civilisation se trouve une nouvelle fois à un tournant. Contre notre patrie, on a déclenché une véritable guerre. Mais nous, nous avons résisté au terrorisme international. Nous allons aussi protéger les citoyens du Donbass et nous allons assurer notre sécurité. Pour nous, pour les Russes, il n'y a pas de peuple inamico, ni en Occident, ni en Orient. Comme la majorité des gens sur cette planète, nous voulons voir l'avenir paisible, libre et stable. Nous considérons que toute idéologie de suprématie, par sa nature, est dégoûtante et criminelle et mortifère. Mais les élites occidentales globalistes pensent toujours à leur caractère exceptionnel. Ils sèment la discorde entre les peuples et les nations. Ils provoquent des conflits, des coups. Ils provoquent le nationalisme agressif. Ils nient les valeurs traditionnelles familiales qui font de l'homme un humain. Ils font tout pour continuer à dicter au peuple leur volonté, leurs règles, leurs droits. Mais en fait, c'est un système d'oppression et de violence. Ils ont oublié ce qu'ont fait les nazis. Ils ont oublié qui a mis fin, qui a écrasé ce mal global, qui n'a pas épargné leur vie pour libérer les peuples de l'Europe. Nous voyons comme dans un certain nombre de pays, avec du sang-froid, on détruit les statues et les statues dressées en mémoire du combattant soviétique. Ils ont oublié la gloire des vrais héros. En réalité, ils dénient ce sacrifice, cet exploit, et c'est un crime. C'est un revanchisme sans couvert de ceux qui ont préparé une nouvelle attaque contre la Russie. Ils ont rassemblé tous les néo-nazis du monde entier. Il n'y a rien de nouveau. Ils veulent arriver à l'écrasement de la Russie, de rayer ce qui a été atteint par le bilan de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils vont à l'encontre de la sécurité internationale et du droit international. Ils veulent détruire les centres souverains du développement. Ils se croient tout permis. Et je vous assure, cela mène toujours à une tragédie. Et c'est ça la raison de la tragédie, de la catastrophe du peuple ukrainien. Ils sont devenus otages du coup d'État. C'est un régime criminel à Kiev et les maîtres sont en Occident. Ils ont des plans, ils sont corrompus. Pour nous, la mémoire des défenseurs de la patrie est sacrée et nous la commémorons aujourd'hui. Nous pensons aux participants au mouvement de résistance qui ont combattu le nazisme. Nous pensons aussi aux armées alliées des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Nous nous souvenons de l'exploit des Chinois dans cette bataille contre le militarisme. Je pense que la coopération, la solidarité pendant ces années, c'est un héritage, c'est une mémoire. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un mouvement dans le monde vers un monde multipolaire qui est basé sur les principes de la sécurité indivisible, sur un développement libre de tous les pays et de tous les peuples. Il est important qu'aujourd'hui à Moscou, nous avons des leaders des pays de la communauté des États indépendants. J'y vois un geste, un signe de commémorer la mémoire de nos ancêtres. Ces peuples ont combattu ensemble. Tous ces peuples de l'URSS ont combattu ensemble et ont contribué à cette grande victoire. Nous allons toujours nous en souvenir et nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie à cette guerre, devant la mémoire des fils, des filles, des pères, des mères, des grands-pères, des maris, des femmes, des frères, des sœurs, de tous les proches, des amis. Je vous demande d'observer une minute de silence.
Asseba.
Merci.
Уважаемые граждане России.
Chers citoyens russes, les combats décisifs pour le destin de notre patrie sont toujours devenus sacrés, populaires. Et nous allons poursuivre les combats de nos ancêtres. Nous comprenons ce que cela veut dire d'être à la hauteur de ce qu'ils ont réussi à faire. Nous sommes fiers des participants de l'opération militaire spéciale, de tous ceux qui sont en première ligne, qui aussi à l'arrière assurent et travaillent. Il n'y a rien de plus précieux actuellement que votre travail au combat. La sécurité du pays dépend de vous. L'avenir de notre État et de notre peuple. Et vous accomplissez votre devoir militaire. Vous combattez pour l'avenir de la Russie, pour vos familles, pour vos amis. Ils vous attendent. Je suis sûre que vous comprenez et vous ressentez leur amour sans fin. Tout le pays est derrière vous pour soutenir nos héros. Nous prions pour vous. Camarades, amis, chers vétérans, aujourd'hui, dans chaque famille, on glorifie les participants de la Grande Guerre patriotique. On pense aux proches, on porte les fleurs aux différents monuments. Nous sommes ici, sur la Place Rouge. Cette terre se souvient les Drujina de Yuri Dolgoruki, de Dmitri Donskoy, Kutuzov, Pierre le Grand, les défilés militaires de 1945. Aujourd'hui, nous voyons ici les participants de l'opération militaire spéciale. Ce sont les personnes mobilisées. Ce sont aussi les personnes qui font partie des unités de Donetsk et de Lugansk. Ce sont aussi les membres de la Garde nationale, du ministère des Urgences et d'autres unités. Je vous salue tous ceux qui combattent pour la Russie sur le champ de combat, tous ceux qui se trouvent aujourd'hui en première ligne. Pendant la Grande Guerre patriotique, nos ancêtres héroïques ont démontré qu'il n'y a rien de plus fort que notre unité. Dans le monde, il n'y a rien de plus fort que notre amour pour la patrie. À la Russie, à nos forces armées glorieuses, à la victoire, hurrah!
Les coups de canon qui partent après le discours de Vladimir Poutine, un discours qu'on attendait un peu, ça ressemble un peu à celui de l'an dernier finalement.
Oui, d'ailleurs on peut se poser la question, est-ce que l'an dernier Vladimir Poutine s'imaginait que 12 mois plus tard, cette opération militaire spéciale, comme il l'a encore qualifiée, refusant absolument de parler de guerre en Ukraine, est-ce qu'il s'imaginait que ses troupes seraient encore embourbées en Ukraine? Vous vous souvenez du début fulgurant de l'offensive, on a pensé, et beaucoup d'experts occidentaux compris, on pensait que Kiev tomberait en quelques jours, et puis on connaît l'histoire maintenant, une résistance, même une contre-offensive à la fin de l'été dernier avec la reprise notamment de Kherson, une nouvelle contre-offensive dont on parle beaucoup, c'est toujours éventuellement dangereux de parler trop à l'avance d'opérations militaires. Mais en tout cas, au 15e mois de guerre, l'armée russe est toujours coincée en Ukraine. Le front est relativement stabilisé sur 800 km. Et donc Vladimir Poutine, une deuxième fois, préside un défilé du 9 mai qui célèbre la victoire, comme nous disions tout à l'heure, contre l'Allemagne nazie, contre la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il a évidemment fait allusion à ce qui se passe en Ukraine, mais encore une fois en toujours qualifiant cette guerre d'opération militaire spéciale. Il a rendu un hommage appuyé aux combattants, disant que le peuple était derrière eux. Et puis il a entretenu effectivement, comme l'an dernier, savamment la confusion entre le combat de 1941-1945 et le combat d'aujourd'hui, en qualifiant une fois de plus le régime ukrainien de nazi, en disant même que l'élite mondialisée occidentale était perméable à cette idéologie nazie. Il a d'ailleurs fait le distinguo entre les peuples occidentaux en disant qu'il n'y a pas de peuple inamico, mais il s'en est pris aux élites occidentales mondialisées qui ourdiraient un grand complot contre la survie de la Russie.
Oui, il dit ils ont pris en otage le peuple. Et lui a dit, ils ont oublié qui a écrasé l'Allemagne. Question aussi de les prévenir, en fait, de ce que pourrait faire la Russie.
Oui, alors moi je n'ai pas lu le discours comme explicitement menaçant. Hein. Il a eu des discours plus menaçants au cours de ces 15 derniers mois. Là, on est vraiment dans... Alors déjà, c'est un message adressé avant tout au peuple russe pour dire que toute la nation doit être derrière les troupes russes contre cette coalition occidentale dévoyée, mondialisée, qui en veut à la Russie, qui défend, elle, les vraies valeurs chrétiennes notamment, même s'il n'a pas prononcé, sauf erreur de ma part, ce terme.
Il a eu un petit mot aussi pour la Chine lors de ce discours. Il n'a pas cité beaucoup de pays, mais par contre, il a cité la Chine.
Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans l'imaginaire occidental, dans la façon dont nous-mêmes à l'école avons appris l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on ne parle pas tellement de la Chine qui avait été envahie par le Japon et après qui a commencé sa guerre civile juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais souvent, on oublie que la Chine, finalement, était dans le camp allié, même si la situation était quand même confuse. Et là, Vladimir Poutine, effectivement... à rappeler le rôle de la Chine dans le second conflit mondial. La Chine qui est effectivement un allié, en tout cas un ami, comme le revendique Xi Jinping et Vladimir Poutine, ami indéfectible de la Russie.
Effectivement.
Il a souligné aussi la présence de chefs d'État de la communauté des États indépendants, des pays d'ex-URSS. On a pu voir donc en majesté, je dirais, Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. Et puis il y a aussi, entre autres, le premier ministre arménien qui est dans une situation... Nicole Pachinian, qui est dans une situation assez délicate puisque son pays est en guerre avec l'Azerbaïdjan qui veut reconquérir la province du Karabakh. L'Astarak, comme disent les Arméniens. Et l'Arménie se sent bien seule et n'a d'autre choix que de se reposer sur son allié traditionnel et historique, la Russie.
Oui, parce qu'on se rappelle, au moment de ce conflit, en fin 2020, début 2021, c'est la Russie qui était venue... bloquer les positions, figer les positions, et on s'imagine que maintenant qu'ils sont occupés avec la guerre en Ukraine, l'Azerbaïdjan en profite.
D'autant que l'Azerbaïdjan aussi n'est pas clairement dans le camp occidental. Il y a un jeu bien complexe là avec le rôle de la Turquie qui est l'allié de l'Azerbaïdjan, qui est membre de l'OTAN, mais avec une position extrêmement ambiguë dans le conflit ukrainien. Donc un jeu complexe, c'est le Premier ministre Nicole Pachinian, Premier ministre de l'Arménie, présent sur la place rouge, je pense, dans une situation très inconfortable.
Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions. Je les relirai à Fabrice qui est à côté de moi. On le rappelle qui a vécu, qui a été correspondant pour Le Figaro en Russie. On a Symphonique, c'est une humaine. Il y a quand même pas mal de soldats sur la place rouge. Ce sont ses réserves. On pourrait se demander, effectivement, ça.
Alors, vous savez que l'armée russe, en termes d'effectifs, est quand même l'une des plus grandes du monde. Et donc, mobiliser quelques 10 000 hommes même si parmi ces 10 000 hommes, il peut y avoir certaines troupes d'élite, ça ne va pas dégarnir le front ukrainien. L'armée russe a suffisamment de profondeur pour se permettre ce défilé très, très massif. Hein. On parle de 10 000 hommes présents aujourd'hui à Moscou, ce qui n'empêche pas effectivement d'avoir des dizaines de milliers d'hommes mobilisés sur ce long front, on le disait tout à l'heure, 800 km de front du nord au sud de l'Ukraine, front relativement figé, mais où les opérations continuent, puisqu'il y a régulièrement, même quotidiennement, des tirs de part et d'autre, hein, des tirs d'artillerie, des tirs de drones, dans les deux sens, dans une situation extrêmement tendue ces derniers jours.
Et il faut réussir aussi à sécuriser ce défilé militaire, parce que ça, c'était la grande crainte, forcément, de la Russie, c'est d'arriver à avoir un défilé militaire complètement sécurisé.
Oui, bien sûr, on se souvient cette mystérieuse explosion nocturne sur un dôme du Kremlin, donc juste à quelques dizaines de mètres derrière la tribune où se tient aujourd'hui Vladimir Poutine, une explosion sur le palais du Sénat dans l'enceinte du Kremlin la semaine dernière, que l'on a attribué à des drones. Alors là aussi, il y a beaucoup de mystères, c'est extrêmement difficile de connaître les faits dans ce genre d'histoire. Bien sûr, l'attaque de drone a été attribuée aux Ukrainiens ou à des forces soutenues par l'Ukraine. Si c'était le cas, c'est très inquiétant pour la sécurité du Kremlin, puisqu'on pense que c'est a priori une des zones, un des périmètres les mieux défendus en Russie. En même temps, ces explosions n'ont créé aucun dégât. Beaucoup de mystères, mais en tout cas, ça a ravivé la tension, effectivement, sur les enjeux de sécurité autour du président russe.
Est-ce qu'en Ukraine, on fête toujours le 9 mai?
Alors, c'est une question très importante. Et en fait, Volodymyr Zelensky vient de faire une annonce à ce sujet. Jusqu'ici, l'Ukraine, ancienne République soviétique, s'était alignée à la Russie et célébrait le jour de la victoire contre l'Allemagne nazie le 9 mai et non le 8 mai. On le disait en début d'émission, pourquoi le 9 mai? C'est une histoire de décalage horaire. Il était déjà le 9 mai, minuit passé, lors de la signature de la reddition à Berlin. Et Staline a toujours voulu conserver cette date du 9 mai pour se distinguer des alliés occidentaux. L'Ukraine était alignée sur cette date et Volodymyr Zelensky, dans un acte très symbolique, vient d'annoncer hier qu'il voulait désormais fêter la victoire sur l'Allemagne nazie le 8 mai, comme le reste de l'Europe. Et le 9 mai sera consacré à célébrer l'Europe, c'est le cas donc dans l'Union européenne. Et autre geste très symbolique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est présente à Kiev aujourd'hui 9 mai, jour de la célébration de l'Europe dans l'Union européenne. Je crois que c'est la cinquième visite de la présidente de la Commission européenne à Kiev depuis le début du conflit.
Effectivement, vous voyez ce défilé qui se poursuit, vous avez entendu Vladimir Poutine qui a parlé. Alors, on se rappelle, il peut faire des discours assez longs. Là, pour ces discours-là, par contre, ça dure une dizaine de minutes.
Oui, il a fait à peu près aussi court que l'année dernière. Encore une fois, il n'a pas eu de discours, en tout cas que moi je qualifie de menaçant. Il a plutôt entretenu donc la flamme de la victoire contre l'Allemagne nazie. Il a entretenu la confusion avec le régime ukrainien qu'il qualifie aussi de nazi, mais un discours effectivement assez court, et il veut laisser la place au défilé, donc qui est la grande parade militaire annuelle en Russie, toujours très spectaculaire dans cet écrin sublime de la Place Rouge.
La Place Rouge, effectivement, vous les avez vécues, ces défilés, c'est quand même très impressionnant.
Bien sûr. Alors, notre défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées est aussi très, très spectaculaire, mais là, on a ce rassemblement des troupes concentrées sur la Place Rouge. Les têtes toujours tournées, les soldats se tournent vers la tribune officielle, vous les voyez, ils tournent la tête à droite. Et puis il va y avoir dans quelques instants le défilé motorisé, des engins blindés, parfois évidemment des chars, et puis des engins porteurs de missiles, parfois à longue portée, donc vraiment une démonstration de force. Et puis en principe, il y a un défilé aérien qui avait été annulé l'an dernier, Mais en principe, il est annoncé cette année.
Alors, il y a aussi une autre particularité de défilé, c'est les hurrahs qui sont lancés. On les a entendus un peu tout à l'heure.
On les a entendus juste à l'issue du discours de Vladimir Poutine. Oui, trois hurrahs sonores lancés par toutes les troupes présentes. C'est extrêmement impressionnant. Alors, on a eu une variante samedi au palais de Buckingham de la part des troupes anglaises, britanniques pardon, rassemblées pour le couronnement du roi Charles III. Là, c'est une version un peu plus festive chez les Britanniques. Ils font un hip hip hooray. Mm-hmm. Et la version russe est vraiment très martiale, très impressionnante quand on l'entend, quand on est sur place, comme c'était mon cas il y a une quinzaine d'années. Très très impressionnant.
Alors, j'ai une question dans les commentaires sur les sanctions qui touche la Russie. En plus, c'est maintenant votre domaine de prédilection. Maintenant, c'est sur ces sanctions russes. On parlait au début de la guerre des sanctions qui pouvaient complètement faire plier le régime russe. Finalement, ça n'a pas été le cas.
Non, alors faire plier, assécher les finances du régime russe, c'était l'objectif revendiqué par l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, les Occidentaux. On sait, avec des exemples historiques, que les sanctions, ça prend beaucoup de temps à fonctionner. Et puis surtout, des sanctions, ça ne peut être efficace que si quasiment tous les pays y prennent part. Or, la Russie compte un certain nombre de partenaires d'envergure qui ne prennent pas de sanctions. La Chine, l'Inde, le Brésil, quasiment tous les pays des BRICS, les pays d'Asie centrale qui sont aujourd'hui représentés. Et donc, il y a un contournement assez massif des sanctions. Par exemple, on sait qu'il y a le commerce. Certaines importations ont énormément augmenté dans des pays tels que la petite Arménie, tels que le Kazakhstan, qui ensuite réexporte un certain nombre de biens, notamment électroniques, visés par les sanctions. Ils les réexportent vers la Russie. On sait que l'Inde a acheté beaucoup plus de pétrole russe cette année, à des prix d'ailleurs cassés, donc c'est intéressant pour les deux partenaires. La Russie arrive à écouler son pétrole et l'Inde arrive à en acheter moins cher. La Chine continue d'échanger avec la Russie, donc les sanctions pour l'instant ne fonctionnent pas certainement aussi bien que ne l'auraient souhaité certains occidentaux. Dire qu'elles ne fonctionnent pas du tout, ce serait exagéré. On sait qu'il y a eu quand même quelques problèmes d'approvisionnement dans l'industrie automobile une partie de l'année, que les circuits financiers sont beaucoup plus compliqués, qu'une partie des plusieurs dizaines de milliards de dollars et d'euros des avoirs de la banque centrale russe sont gelés. Donc les choses sont quand même plus compliquées, mais ce n'est pas l'asphyxie telle que pouvaient l'espérer certains occidentaux. Et de toute façon, ça prendra du temps. L'idée est d'affaiblir sur le long terme l'économie russe pour qu'elle ait de plus en plus de mal à financer sa guerre.
Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas de la part des Occidentaux, parce que tous les pays émergents, par exemple le Brésil, Lula est un allié de la Russie.
Oui, c'est ce que je vous disais. Et donc, la Russie peut compter sur des alliés de poids, hein, qui ensemble, pèsent pour sans doute plus de la moitié du PIB mondial.
Donc là, on continue de suivre ce défilé.
C'est Cosaque, semble-t-il.
Ces troupes à pied. Après, effectivement, il y a le défilé motorisé. Et ça aussi, c'est toujours le grand nom, parce que ça, c'est quelque chose. Alors, motorisé, on a ça en France. Mais par contre, des missiles comme en Russie, on ne le voit pas.
Il y a des missiles quand même de longue portée, des missiles motorisés qui défilent sur les Champs-Élysées, me semble-t-il, certaines années en France. Mais en Russie, c'est effectivement une des composantes de ce défilé militaire, d'avoir ces énormes camions chargés de 2, 3, 4 missiles, notamment les missiles S-400 qui ont des portées de plusieurs centaines, voire de milliers de kilomètres, qui sont donc des lanceurs mobiles, donc beaucoup plus compliqués à localiser, à détruire pour la part d'un adversaire. Et il est probable qu'on devrait les voir. Alors, ça renvoie à la menace nucléaire que Vladimir Poutine a à plusieurs reprises brandie dès le début du conflit. On sait que son allié Xi Jinping, lui, aurait fixé une ligne rouge en disant « Attention, ne pas utiliser l'arme nucléaire dans ce conflit parce que ça entraînerait une escalade absolument terrifiante. » Donc pour l'instant, c'est plus de la rhétorique.
Oui, on se rappelle que assez tôt dans le début du conflit, il en avait parlé. On parlait de possibilités. Alors que là, voilà, ça c'est le début du défilé motorisé, on peut voir ces chars qui ont l'air assez, assez anciens.
Oui, on sait qu'il y a encore beaucoup de chars de l'époque soviétique qui servent en Ukraine, mais il y a aussi des chars plus modernes. L'artillerie qui est vraiment utilisée comme dans les guerres anciennes, dans cette guerre en Ukraine. Et on sait l'importance que l'Ukraine a attachée à pouvoir recevoir des chars occidentaux, chars qui commencent à arriver sur le terrain et qui devraient compter dans l'offensive, même si on sait qu'en face, la Russie a vraiment fortifié ses positions et que ce sera très compliqué pour une offensive blindée de franchir tous ces fortifications, ces zones minées, ces fossés creusés. Donc la contre-offensive sera forcément extrêmement compliquée pour les Ukrainiens si elle a lieu.
Si elle a lieu, forcément. On parlait effectivement de ces livraisons d'armes très importantes pour l'Ukraine, sachant que, pour le coup, l'armée ukrainienne, non, à la base, était équipée avec les mêmes modèles que la Russie.
Oui, tout à fait. Alors elle avait commencé à acquérir du matériel occidental quand même depuis quelques années, puisqu'il y avait une volonté de Kiev de rallier l'OTAN et de moderniser son armée avec d'autres fournisseurs que les seuls Russes, mais la base de son armée était effectivement largement pourvue en équipement soviétique, ou en tout cas russe.
Alors, vous voyez les caméras dans les véhicules, comme on peut le voir aussi lors des défilés du 14 juillet aussi. On rappelle ce parallèle, même si, vous le dites aussi, le défilé du 14 juillet, c'est très long. Alors qu'un défilé comme celui-ci, il est normalement plus court.
Bon, c'est peut-être un peu plus ramassé, ne serait-ce qu'à cause de la géographie. Il n'y a pas tous les Champs-Élysées à descendre. Mais en tout cas, ça reste un spectacle, une démonstration de force tout à fait impressionnante. C'est une date, encore une fois, c'est presque l'équivalent de la fête nationale, même si officiellement ce n'est pas la fête nationale. Pour les Russes, c'est une date, une commémoration extrêmement importante. Hein. Le souvenir du sacrifice des quelques 25 millions de citoyens soviétiques pendant le second conflit mondial a été très entretenu pendant toute la période stalinienne, puis le reste de l'époque soviétique, puis par Vladimir Poutine, et que ça reste important. Pas une famine russe n'a été épargnée par le conflit mondial.
Oui, un petit plan sur la machinerie qui fait tourner les roues. Là, vous avez pu le voir avec ce défilé qui se poursuit. On voit des gens. On a vu d'ailleurs pendant ce défilé aussi des jeunes garçons, des jeunes filles, très jeunes filles, très jeunes garçons, habillés en habits militaires.
Oui, il y a toujours eu une mise en scène, hein, même bien avant le conflit en Ukraine. De jeunes, alors ça peut être des cadets, ou là c'était même des enfants plutôt d'âge d'être à l'école primaire, vêtant des uniformes de la Seconde Guerre mondiale, en hommage à leurs aïeux tombés pendant le conflit. Il y a un côté instrumentalisation, bien sûr, en brigadement des enfants. Vous savez que les programmes scolaires sont surveillés de très très près, qu'il y a eu histoire de cette jeune fille de 12-13 ans dont le père a été arrêté parce qu'elle avait fait un dessin hostile au conflit en Ukraine. Donc l'éducation est toujours au cœur pour un pouvoir politique du contrôle d'un conflit. Et voici ces missiles tout à fait impressionnants, des missiles de moyenne ou longue portée, alors qu'ils sont effectivement régulièrement montré au cours de ce défilé de la Place Rouge du 9 mai. Démonstration de force.
Effectivement, c'est missiles qui sont assez immenses, nucléaire. C'est la traductrice qui nous dit à côté, puisqu'elle elle est commentaire en même temps de ce défilé. Ça, pour le coup, voilà, on défile avec les très grandes armes de l'arsenal.
Oui, parce qu'on sait que c'est le recours ultime, hein, la force nucléaire, et à plusieurs reprises, Vladimir Poutine ou ses généraux ont laissé entendre que l'usage d'armes nucléaires dites tactiques, par opposition aux armes stratégiques, c'est-à-dire qui pourraient vraiment servir sur le terrain des combats, n'a pas été exclu dans le discours, mais personne ne sait jusqu'où irait une escalade s'il y avait vraiment un usage d'armes nucléaires sur le terrain. Et je vous le disais, Xi Jinping aurait indiqué à Vladimir Poutine que pour lui, l'usage d'armes nucléaires dans ce conflit est une ligne rouge à ne pas franchir.
J'ai l'impression qu'on s'approche de la fin de ce défilé, puisque toutes les troupes motorisées sont passées, et ensuite, donc, voilà, il y a les...
Effectivement, assez rapide.
Il y a les autres personnes qui passent devant et qui bloquent la place pour chanter.
Alors, est-ce qu'il y aura un défilé aérien cette année ? On sera assez vite fixé.
On va vous laisser vivre ce chant.
Парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завершается. Под звуки марша «Прощание славянки» оркестр покидает Красную площадь. Парад победы завершен. Да здравствует 78-я годовщина Великой Победы!
Ура! Le speaker de la Place Rouge. Merci, Fabrice Nadet-Langlois, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Un défilé plus court que notre 14 juillet, comme vous le disiez, hein, moins d'une heure. Hein.
C'est ça, moins d'une heure, 45 minutes exactement, il aura duré. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir été avec nous. Je remercie aussi Olga, notre traductrice, qui a été avec nous tout au long de ce direct. Riyad Bekir en régie. Merci d'avoir été avec nous. On va vous laisser la fin de ces images et on vous dit à bientôt sur Figaro Live.
Thank you.